Le magazine Femina de VOA Afrique.
Chères auditrices, chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Nathalie Barge pour vous présenter le magazine au féminin, que vous pouvez également écouter en différé sur notre site internet voaafrique.com. Les intervenants à la 21e conférence internationale sur le sida 2016 à Durban se sont accordés sur la nécessité de diagnostiquer toutes les femmes enceintes en Afrique subsaharienne et de s'assurer que celles qui ont le sida prennent bien leur traitement sans interruption afin d'éviter la transmission de la mère à l'enfant. Les défis à relever sont toujours aussi nombreux et importants, comme nous l'explique le docteur Marcel Yotebiang du PEPFAR, le plan d'urgence du président des États-Unis pour lutter contre le sida.
Nous avons constaté qu'il y a beaucoup de problèmes de déperdition le long des différentes étapes, depuis son enregistrement aux consultations prénatales jusqu'à la fin de l'exposition du risque de transmission. Et nous recherchons à l'heure actuelle des voies et moyens pour diminuer cette perte de vue le long de la cascade. Précédemment, avec des financements de PEPFAR à travers l'Institut national de la santé des États-Unis, nous avons évalué ici l'utilisation des transferts monétaires conditionnels, mais on était encore à 80% de femmes retenues le long de la chaîne des soins, ce qui indiquait qu'il y a d'autres problèmes qui se posent, notamment les problèmes de la qualité des soins dans les structures.
Est-ce que ces soins sont gratuits?
Dans les pays appuyés par PEPFAR, qui est le programme d'urgence du président américain pour la lutte contre le VIH, les soins sont généralement gratuits. Dans les 21 pays en Afrique subsaharienne dits prioritaires, par l'ONU-SIDA, puisque ces pays regorgent plus de 80% des femmes enceintes VIH positives. Généralement, ces pays sont appuyés par PEPFAR et les soins sont gratuits.
Dans l'étude, justement, de PEPFAR sur ce sujet, il est dit « Nous avons les outils en ce moment pour réduire l'incidence des nouvelles infections, mais nous avons besoin d'appliquer ces outils de manière plus efficace. » Que voulez-vous dire par là ?
Cela veut dire que nous avons des traitements qui permettent de réduire la transmission de la mère à l'enfant à moins de 1%. Mais quand on regarde les statistiques qui viennent de ces différents pays, les 21 pays que je viens de mentionner au sud du Sahara, on est loin du compte.
Quels sont les obstacles justement à ce bon fonctionnement?
Le premier obstacle, c'est que quand les femmes viennent en consultation prénatale, là où elles sont diagnostiquées, parfois elles ne reviennent pas à accoucher dans la même structure. Mmh. Où elle accouche dans la même structure et après quitte la structure pour aller ailleurs. Ce qui veut dire donc que quand elles ne reviennent pas, elles ne sont plus sous traitement. Et si elles ne sont plus sous traitement, le risque de transmettre le VIH chez leur enfant devient élevé. Les cliniques là où elles vont accoucher, où elles ont quitté, si ces cliniques n'ont pas de service de VIH, si ceux qui sont là ne prennent pas la peine de la tester à nouveau, c'est là où on a des déperditions sans que personne ne sache qu'elle est VIH positive.
Comment procédez-vous aussi pour pouvoir amener toutes les femmes à se faire tester?
Le protocole à l'heure actuelle dans la plupart des pays, c'est que toute femme qui vient en consultation prénatale est testée. Mm-hmm. Mais généralement, après ça, les femmes qui, malgré que l'OMS le recommande pour des raisons diverses, les femmes qui viennent après l'accouchement dans les services de soins de santé maternelle et infantile ne sont généralement pas retestées.
Si on reçoit une femme qui va accoucher dans un centre médical, elle est sur le point d'accoucher, on ne sait pas si elle est séropositive ou non, comment procède-t-on?
Pour le moment, le protocole demande de la tester si elle est en salle d'accouchement. Parce que le risque pour une mère de transmettre le virus à son enfant est le plus élevé au moment du travail et de l'accouchement. Et dans la plupart des structures qui ont les services de prévention de transmission mère-enfant, les personnels des salles d'accouchement sont formés pour tester les femmes qui arrivent en salle d'accouchement sans que leur statut VIH soit connu. Et si ces femmes sont positives, ils ont généralement les médicaments sur place pour commencer le traitement immédiatement.
Et est-ce qu'il n'est pas trop tard à ce moment-là?
Bien évidemment, il est trop tard. Pour vraiment atteindre les objectifs de moins de 5% de transmission pour les femmes enceintes, pour de moins de 2% de transmission à 6 semaines, ou pour les femmes qui n'allaitent pas, il faut commencer le traitement avant la 14e semaine de grossesse et rester sur ce traitement. C'est-à-dire quand on arrive en salle de grossesse, Le risque de transmettre pendant la grossesse du VIH varie de 8 à 15%. Donc, on peut déjà avoir transmis le VIH à son enfant au moment du travail, quand le travail commence.
Et au moment de l'allaitement, alors, quel est le pourcentage de risque?
Si vous allaitez entre 18 et 24 mois, comme c'est généralement le cas ici en Afrique subsaharienne, ça ajoute un risque de l'ordre de 10 à 15%. Et pour prévenir cela, il faut que la femme reste sur le traitement pendant toute la durée de l'allaitement.
Qu'est-ce que vous préconisez comme méthode innovante pour parfaire, hein, n'est-ce pas, cette situation de femmes qui ont le sida et qui risquent de transmettre cette maladie à leur futur nouveau-né?
Dans la plupart des pays en Afrique subsaharienne, particulièrement les systèmes de soins maternels et infantiles, ont été conçus pour fournir des soins ponctuels. Et le VIH qui doit être géré sont des soins chroniques qui demandent à revoir la patiente tous les jours. C'est que il n'y a pas de bâton magique pour pouvoir faire cela. C'est une combinaison d'interventions qui vont permettre de pouvoir améliorer la rétention des femmes et atteindre les objectifs que l'Assemblée des Nations Unies s'est fixé pour l'élimination du VIH pédiatrique.
Le docteur Marcel Yotebiang, professeur de santé publique à l'Université d'État de l'Ohio, était en mission d'évaluation du traitement antirétroviral sur les femmes enceintes et allaitantes. La conférence internationale sur le sida à Durban aura été l'occasion pour l'UNICEF de souligner, non sans regret, que cette maladie reste jusqu'ici la première cause de mortalité chez les jeunes âgés de 10 à 19 ans en Afrique. En Afrique du Sud, 82% des adolescents infectés sont des filles. J'ai joint à Durban le docteur Eric Zogo, expert VIH-Sida.
La forte prévalence se situe généralement autour de 10 à 19 ans. Vous savez, avec les nouvelles campagnes, il faut tester les gens et on arrive à découvrir les gens qui avaient échappé d'avoir les traitements au bas âge. On arrive à les découvrir à ce niveau-là. Sans oublier qu'aujourd'hui, les jeunes gens deviennent sexuellement actifs trop bas. Les données qu'on a pour le moment, c'est les données de 10 à 19 ans, où on dit que 58% de ces cas-là sont des filles. Mmh. Et spécialement ici en Afrique du Sud, c'est même très grave parce que on dit que le nouveau cas d'infection à VIH en Afrique du Sud, 80% des nouveaux cas, c'est chez les adolescents. Et ici en Afrique du Sud, on dit que dans les 80% des adolescents, 82% sont des filles.
Alors, on a l'impression tout de même là d'être dans une situation d'urgence aujourd'hui par rapport aux adolescents. Que faut-il faire?
Il y a des pourparlers au niveau des organisations qui soutiennent financièrement la lutte contre le sida pour pouvoir faire appliquer ce qu'on appelle fast track chez les enfants. Donc, traiter très rapidement sans tarder les adolescents atteints de sida. Aujourd'hui, il est prouvé scientifiquement que quand on soigne les gens qui sont atteints de VIH, on est en même temps en train de prévenir de nouvelles infections.
La jeunesse, vous l'avez dit tout à l'heure, a des relations sexuelles de plus en plus tôt. Donc là, il y a aussi, je suppose, dans vos méthodes préventives, l'éducation sexuelle, n'est-ce pas?
Tout à fait. L'éducation sexuelle a une place très importante. Il y a une méthode en anglais qu'on appelait ABC, où on parle de l'abstinence, on dit be faithful, c'est-à-dire qu'il faut être la fidélité, et puis le C qui signifie condoms ou le préservatif. Alors, sur cette vieille ou traditionnelle façon de provenir ABC, il y a aujourd'hui, on a développé de nouvelles stratégies, dont en priorité les circoncisions médicales chez les hommes. Et on est en train de focaliser aujourd'hui l'âge de 15 à 29 ans chez les hommes. Mmh. Et on a trouvé qu'en circoncisant les hommes entre l'âge de 15 à 29 ans, on diminue la transmission du sida jusqu'à 60%. On nous a présenté une étude faite au Kenya qui a prouvé que sensibiliser les partenaires femmes ou les adolescentes sur les bienfaits de la circoncision masculine, à montrer les changements dans le comportement des adolescents garçons.
Il est dit qu'il faut passer donc par les filles, c'est cela ?
Entre autres, sensibiliser les garçons eux-mêmes, mais aussi utiliser leurs futurs partenaires. Il y a des statements de certaines filles. Il dit, moi, je n'aurai pas une relation avec un jeune qui est incirconcis parce que il est moins hygiénique, parce qu'il est vecteur d'infections sexuellement transmissibles. Alors, des statements comme ça poussent les garçons adolescents à pouvoir aller rapidement se faire circoncire. Et je l'ai dit au début qu'il a été prouvé que la circoncision médicale pratiquée chez les garçons réduisait la transmission de VIH à 60%.
Mais est-ce que vous rencontrez des réticences dans certains pays d'Afrique par rapport à ça, la circoncision ?
Ça dépend des cultures. Ici, on est en train de vulgariser des circoncisions faites par un personnel médical, c'est-à-dire des circoncisions qui n'ont pas d'effet secondaire majeur. Mmh. Et à part l'éducation, à part les circoncisions, il y a aujourd'hui un comprimé qu'on donne aux gens avant l'exposition au VIH. Et je l'ai dit tantôt que donner les antirétroviraux aux gens qui sont atteints de VIH diminue la propagation du VIH-Sida dans le futur. Et on est en train aujourd'hui de projeter les essais des pré-anticorps humains, et il y a ce qu'on appelle aussi Coprisa Antibody. Ce sont des anticorps qu'on a développés ici en Afrique du Sud, et on aimerait commencer l'essai dès l'année prochaine.
C'est une sorte de vaccin, vous voulez dire ?
Ce n'est pas loin d'un vaccin, mais ce n'est pas le vaccin parce que, comme vous le savez, la tentative de vaccin qui a eu en 2009 n'est protégée que jusqu'à 31%. Les recherches qui ont été conduites au Thaïlande ont montré que ce vaccin-là a protégé jusqu'à 31%. Mais on pense que la combinaison de tout ce que j'ai énuméré pourra aider. Mais néanmoins, les scientifiques estiment qu'il y a l'espoir, qu'on n'est pas très loin d'un vaccin. Et le vaccin dont on pense, c'est beaucoup plus avec les chercheurs sud-africains.
Est-ce qu'il y a des campagnes d'envergure pour parvenir à sensibiliser ces jeunes ?
Parler de l'Afrique subsaharienne, il y a certains pays qui font exception. La plus grande majorité est délaissée, soit c'est dû au programme national de lutte contre les SIDA qui ne sont pas assez mieux organisés. Mais il y a certains pays où les choses sont assez bien organisées. Quelques pays de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe où les choses semblent être assez organisées. Et on semble voir que l'Afrique centrale et quelques pays de l'Afrique de l'Ouest, les choses ne sont pas assez bien organisées.
Le docteur Eric Zogo est directeur d'une unité chargée de la circoncision à Cape Town en Afrique du Sud.
Entre parenthèses.
Au Burundi, le Forum pour la conscience et le développement affirme que des femmes et des jeunes filles sont victimes de la traite des êtres humains vers des pays du Moyen-Orient. Eric Manirakiza a joint le président du FOCOD, Pacifique Nininazwe.
Nous avons été alertés par des familles de Tchankouzo qui avaient des filles qui étaient menacées par l'autorité provinciale du CNDD-FDD. Les filles qu'on voulait enregistrer sur des listes de personnes à envoyer à Oman ou en Arabie Saoudite, qui se disaient, mais qu'est-ce qu'on va faire dans ces pays arabes? Alors, nous avons mené une enquête à Tchankouzo, nous avons fait cela à l'aéroport de Bujumbura, dans d'autres coins. Nous avons découvert, justement, un trafic énorme et extrêmement inquiétant. À l'aéroport de Bujumbura, où nous avons fait une surveillance pendant 2 semaines, du 3 juin au 17 juin, nous avons constaté, rien qu'en 2 semaines, un mouvement de 225 filles qui allaient à Oman, qui allaient en Arabie Saoudite, et qui chaque fois étaient accompagnées d'un trafiquant jusqu'au tarmac de l'aéroport, ce qui montrait que ce n'était pas normal, que le trafic était soutenu en haut lieu. Après, nous avons alors constaté qu'il y a des groupes, des sociétés de trafiquants qui sont d'abord agréés, enregistrés à l'Agence pour la promotion des investissements API et qui sont soutenus par le reste des autorités burundaises. Nous avons trouvé que, par exemple, à RAPAF, ces sociétés reçoivent des passeports de ces filles qu'elles recrutent et de manière groupée et avec une facilité extraordinaire. Nous avons été en contact avec des trafiquants qui nous ont confié qu'ils étaient soutenus par le Service national de renseignement et qu'ils devaient payer 400 dollars par tête de chaque fille qui partait. Par après, nous avons aussi réalisé que les recrutements continuent à se faire dans plusieurs autres permanences du CNDD-FTD à Karoussi, à Muyinga, à Bubanza, à Tchankouzo, comme je disais au départ. Et à Bubanza, c'est là où ça s'est aggravé, où, par exemple, des responsables du parti CNDD-FTD ont cru à des mensonges de salaire alléchant en Arabie Saoudite et ont fini par envoyer leurs propres filles et leurs épouses. Et je vous donne un exemple d'un cas à Musigati où un membre du conseil communale est allée elle-même et compte parmi les filles et les femmes qui sont parties dans ces pays, de même qu'elle épouse d'un responsable de l'enseignement dans cette commune.
C'est à quel prix et quel traitement elles subissent ?
Chaque femme qui arrive notamment à Oman coûte 500 riyals omanais, c'est environ 1000 euros. En francs burundais, c'est autour de 2 millions et demi. Une information très confidentielle est que le parti prévoyait de recruter sur chaque commune 200 filles par chaque commune. Il sera ferré un total de 25 filles burundaises qui allaient être recrutées, envoyées dans ces pays. Et si vous comptabilisez tout cela, ça ferait un total de 50 milliards de francs burundais.
Est-ce que c'est le parti qui organise ça ou ce sont des individus membres du parti qui utilisent le label parti, mais pour des fins
C'est possible que ce soit les deux. Nous sommes interrogés sur le fait que jusqu'au 18 juin, la police a continué à dire que ce trafic n'était pas alarmant, que la police était au courant juste de deux filles qui étaient déjà parties. Et que le 19, en moins de 24 heures, la police a elle-même annoncé qu'il y avait 267 cas de victimes qui étaient parties depuis le mois d'avril. D'abord, nous contestons ces chiffres, mais le fait qu'il y ait un revirement le 19 juin, alors que le 19 juin se tenait le congrès du parti CNDD-FTD en Ngozi, donc il y avait la possibilité de changement des autorités du parti CNDD-FTD, il est possible que ce soit un commerce de quelques personnalités. Mais la manière dont les différentes autorités ou les différents organes de l'État se sont comportés dans cette affaire, il est difficile de distinguer ce qui serait fait par des autorités à titre personnel ou ce qui serait fait comme une affaire de l'État. Puisqu'il y a, par exemple, un ministre qui a posé un acte en utilisant son titre de ministre, c'est la ministre de la Santé, qui a autorisé l'hôpital Kira Hospital le 22 décembre à faire des examens médicaux au profit d'une des compagnies de trafiquants.
Est-ce que vous auriez touché les responsables de ce parti pour en savoir davantage?
Malheureusement, nous sommes dans une situation où cela serait extrêmement difficile. Vous savez, le Fokode est suspendu à Bujumbura. De manière officielle, il n'y a pas de possibilité que je connaisse son genre d'informations. Mais de manière officielle, on a eu des informations internes extrêmement importantes.
Et quelles sont les conséquences sur les familles?
Des familles qui sont disloquées, des foyers disloqués. Il y a des femmes qui sont parties sans avertir leur mari. Certains maris nous ont dit qu'ils avaient appris le départ de leurs épouses juste au moment du décollage de l'avion. Et des maris qui se trouvent dans un chagrin, dans une situation extrêmement difficile depuis le départ des épouses et qui n'ont même plus communiqué depuis leur départ, notamment celles qui sont parties en Arabie Saoudite. L'autre conséquence, c'est l'abandon des enfants. Et là, les femmes que nous avons contactées à Oman notamment exprimaient la plus grande douleur qu'elles avaient. Ce n'était pas la situation de quasi-esclavage dans laquelle elles se trouvent, mais c'était plutôt la nostalgie, les regrets pour leurs enfants abandonnés. Et troisièmement, c'est les situations d'abandon scolaire pour les jeunes filles. Nous avons trouvé dans un certain nombre d'écoles secondaires des jeunes filles qui avaient falsifié leur âge pour apparaître majeures et qui avaient abandonné leurs écoles pour aller à Oman ou en Arabie Saoudite. Et pour celles qui vont retourner au Burundi, je pense qu'il y a un bon nombre qui sont dans une situation extrêmement graves, qui auront besoin d'une assistance aussi bien psychologique, médicale que financière. Et je pense que le Burundi, à la fin, va trouver qu'elle aura beaucoup perdu avec ce trafic. Pour nous, il y a aujourd'hui trois mesures urgentes qui doivent être prises. C'est d'abord des mesures pour stopper immédiatement ce trafic. Et nous sommes au courant qu'il y a des trafiquants qui commencent à faire passer ces filles par des pays limitrophes du Burundi. Il faut rapidement stopper cela et engager une campagne de sensibilisation et d'information des Burundais. Deuxièmement, Bujumbura doit organiser une opération de rapatriement des filles en détresse aujourd'hui à Oman et en Arabie Saoudite, comme la Tanzanie est en train de le faire. Enfin, il faut rapidement une enquête qui donne réellement la dimension de ce trafic, qui donne l'ampleur de ce trafic, à la fin, qui dégage les responsabilités. Les gens oublient qu'il existe une loi burundaise qui punit la traite des personnes. Et nous demandons alors l'application de cette loi, qu'il y ait une enquête sur les auteurs de ce trafic et qu'on connaisse l'ampleur et à la fin qu'on châtie les auteurs de ce crime grave.
C'était le militant burundais pacifique Nini Nazwe. Au Togo, la situation des enfants en conflit avec la loi n'est guère enviable. Le passage à la maison de correction qui devrait être bénéfique pour ces enfants est malheureusement un lieu d'apprentissage du banditisme pour la plupart d'entre eux, nous dit notre correspondante à Lomé, Kayi Lawson.
À la date du 31 décembre 2015, 454 enfants, dont 40 filles, étaient en détention dans des maisons d'arrêt au Togo. Même si le pays dispose d'une brigade pour mineurs, des enfants se retrouvent encore incarcérés avec des adultes. Félicité Mukantabara, chargée de la protection de l'enfance à la représentation de l'UNICEF, nous peint le tableau des enfants en contact avec la loi au Togo.
Les enfants qui entrent en contact avec la justice n'ont pas souvent les conditions les plus appropriées pour leur prise en charge. Quand ils sont en conflit avec la loi, soupçonnés d'avoir enfreint la loi, ils sont incarcérés avec des adultes, ce qui n'est pas approprié parce qu'ils apprennent beaucoup de mauvaises choses plutôt que de se reconstruire. Ils n'ont pas accès à l'éducation, ils n'ont pas accès aux jeux, aux loisirs, ils n'ont pas accès à la santé parfois. Ça, c'est pour le côté des enfants en conflit avec la loi. Pour les enfants victimes, normalement, ils doivent avoir une prise en charge appropriée. Et avoir des soins médicaux, avoir une prise en charge psychologique, tout ça n'est pas au point ici au Togo.
Aucun enfant ne mérite d'aller en prison, quel que soit l'acte qu'il a posé. C'est la position que défend le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Docteur Isselmou Boukari, représentant résident de l'UNICEF au Togo.
L'UNICEF préconise que tous les enfants en contact avec la loi doivent être considérés comme des victimes. D'abord, on doit réfléchir à l'avenir de l'enfant et éviter qu'il devienne un délinquant perpétuel. Et donc, l'UNICEF préconise qu'il y ait ce qu'on appelle les mesures alternatives à l'emprisonnement. Les mesures alternatives doivent viser la réinsertion des enfants. Il y a des centres d'accueil de réinsertion. Il y a surtout la réinsertion au niveau communautaire qui est l'approche que nous souhaitons la plus pour créer une plus grande responsabilisation des familles et des communautés pour que ces enfants-là ne tombent pas dans la délinquance perpétuelle.
L'atelier de parentalité positive, c'est avec ce concept que le Bureau national catholique de l'enfance du Togo, BNCE Togo, prépare la réinsertion sociale des enfants en conflit avec la loi. Alphonse Akapo du BNCE Togo.
Des cas de rencontre des parents pour échanger sur les difficultés qu'ils ont en termes d'encadrement de leurs enfants, en termes de réintégration de leurs enfants. Il y a un certain nombre de parents qui refusent, par exemple, d'accueillir leurs enfants. Les ateliers de parentalité positive que nous faisons permettent également de mettre les parents et les enfants ensemble pour libérer la parole, pour que chacun puisse dire ce qu'il reproche à l'autre. C'est comme une thérapie. Cela permet de faire sortir un certain nombre de ressentiments que les gens ont. Si nous constatons que les familles n'ont pas les moyens, par exemple, pour pouvoir accompagner leurs enfants, nous apportons des appuis à ces familles. Par exemple, nous payons les frais de collège, nous payons les fournitures scolaires et à certains enfants à qui nous donnons des rations alimentaires.
Noël Ekpe, mécanicien de roue, a connu la prison dans son enfance. Un parcours qu'il regrette aujourd'hui.
16 ans, Yendo, et au différent.
Quand j'avais 16 ans, je vivais dans la rue. Un jour, j'ai volé les phares d'une voiture. J'ai été arrêté et déféré à la prison civile de Lomé. Le BNCE, ayant pris connaissance de mon âge, a œuvré pour mon transfert à la brigade pour mineurs, où j'ai purgé une peine de 2 ans. À ma sortie, j'ai été assisté par cette organisation qui m'a envoyé en apprentissage. M'étant rendu compte de mon erreur d'enfance, j'ai fait ma formation avec abnégation et je dispose maintenant de mon propre atelier de mécanique où j'exerce depuis 7 ans. J'ai 8 apprentis. N'eût été l'intervention du BNCE, je ne sais à quoi rimerait aujourd'hui ma vie. Je les remercie tout en mettant en garde mes jeunes frères que la prison n'est pas une expérience souhaitable. Pour mieux protéger les enfants en contact avec la loi, le Togo va mettre en œuvre un projet triennal sur la période 2016-2018. Plus de 800 millions de francs CFA vont être investis non seulement dans la formation des acteurs judiciaires, mais aussi dans l'amélioration des conditions de détention des mineurs. L'objectif est d'élaborer des mécanismes alternatifs à la privation de la liberté afin de parvenir à réduire le taux de détention des mineurs et d'assurer leur réinsertion sociale. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Arrête.
Good night and good luck. This is what it all comes down to. Keep your head high, take a breath, look around you, round two. You open your eyes, flat on your back, you look to the sky.